Nous avons ce soir la suite de ce que nous avons regardé la dernière fois. Sous le chapitre « À quoi sert le christianisme ?», beaucoup de questions peuvent se poser. Et ce soir, j'aimerais regarder avec vous la question « Que m'arrive-t-il après la mort ?». C'est une question délicate, c'est une question amplement débattue. C'est une question que j'aimerais regarder dans la même perspective que ce que nous avons essayé de définir la première fois, à savoir qu'est-ce que le christianisme m'apporte sur ce sujet-là aujourd'hui, et est-ce que le christianisme ambiant m'aide face à cette question-là. Tôt ou tard, nous sommes confrontés à la question de la mort, soit pour nous-mêmes, soit pour les autres, et je crois qu'il est important de savoir ce qu'il en est exactement par rapport au christianisme. Je vous avais mentionné la première fois qu'il semble évident qu'il y a christianisme et christianisme. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est que ce que le christianisme de la Bible, des Écritures, me dit par rapport à cette question « Que m'arrive-t-il après la mort ?» La mort est un sujet qui est passionnant, qui est mystérieux pour beaucoup, et pour lequel on a augmenté largement le mystère en y rajoutant toutes sortes d'idées surnaturelles, etc. On a rendu la question de la mort encore plus mystérieuse qu'elle apparaît. Et dans ce sens-là, j'aimerais que, par les Écritures, on essaye de voir ce que le christianisme biblique peut nous apporter. Maintenant, la question de la mort est abordée de façon très différente. La littérature en parle énormément. Dans les civilisations anciennes, si on les regarde, on se rend compte que la mort est en réalité le centre de gravité de la plupart de ces religions. Encore aujourd'hui, beaucoup de religions non chrétiennes gravitent autour de cette idée de la mort et de ce qui va avec. La mort a cette fascination qui va même amener les gens à ressortir leur mort régulièrement, à les promener, à les honorer. Curieusement, la mort est devenue une fascination pour certains, une crainte, une panique pour d'autres, et c'est aussi pour certains une occasion de rire, de plaisanter, de se moquer. Je pense par exemple à ce qu'on a dans nos villes avec Halloween. Et je me suis posé souvent la question, lorsque quelqu'un vit un deuil et qui se promène dans la rue et dans sa rue, et lorsqu'il voit dans les jardins les scènes les plus morbides qui sont reproduites devant les maisons à l'occasion de Halloween, qu'est-ce que ça fait à ces personnes qui vivent un deuil, un vrai deuil? D'un côté la souffrance et d'un autre côté la moquerie, la plaisanterie à propos de la même chose. Que ce soit la littérature sérieuse ou pas, la question de la mort est constamment présente, comme si on avait un peu l'intention de démystifier la mort dans un sens, tout en lui gardant son mystère en même temps. Et on a souvent vis-à-vis de la mort des attitudes très contradictoires. Alors, si vous allez dans un enterrement aujourd'hui, quel que soit le clocher où vous allez, et que vous écoutez ce qui est dit lors d'un enterrement, vous entendez souvent des choses contradictoires et personne ne bouge, personne ne s'étonne. Et j'aimerais vous présenter là très rapidement quelques-unes des contradictions que l'on entend aujourd'hui et qui semblent ne poser de questions à personne. Par exemple, le paradis pour les bons, l'enfer pour les méchants, le purgatoire pour l'entre-deux. Mais quand je lis ma Bible, le purgatoire, je ne le trouve nulle part. D'où vient-il, cet entre-deux? Il ne souffre plus, mais il vit encore quelque part. Mais alors, s'il vit quelque part, il souffre encore. Et s'il ne souffre pas, c'est qu'il ne vit plus. En enfer, il devra souffrir éternellement pour ses péchés pendant sa vie. Le bon Dieu demande cela. Alors écoutez, prenons la vie moyenne d'un être humain, 90, 100 ans pour les plus forts. Et nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs. Alors un être humain va pécher 90 ans et va devoir payer pendant l'éternité dans les flammes de l'enfer, ses 90 ans de péché. Et le bon Dieu demande ça. On bénit le corps qui se détruit, mais son âme vit ailleurs. Alors on va bénir le corps, mais enfin le corps, on va le mettre en terre, il est pourri. Qu'est-ce qu'on bénit? Pour encourager la famille, on parlera de son âme au ciel et en même temps de la promesse de la résurrection. Mais alors, s'il est au ciel, à quoi sert la résurrection? Comment réconcilier les deux? Certaines personnes vont pouvoir toucher leur défunt longtemps après leur mort, mais leur âme vit encore et leur corps n'existe plus. Alors expliquez-moi comment des gens vont être capables de toucher leur défunt, de sentir leur corps, de sentir leurs os, alors que le corps est détruit, mais qu'on va dire en même temps il vit ailleurs. Ce sont là quelques exemples que je vous donne de ce que l'on dit, de ce que l'on entend dans le christianisme traditionnel d'aujourd'hui, et qui, si on y réfléchit, pose quand même de nombreuses questions. On a aujourd'hui une relance de cette science occulte, de la magie. Harry Potter, par exemple, les chiffres sont extrêmement intéressants. Plus de 250 millions de livres de Harry Potter ont été vendus dans plus de 200 pays du monde et traduits en 60 langues. En quelques temps, en très peu de temps. D'où vient cet engouement pour ce mystère, cette magie de la mort? Et dans un des livres ici, je cite ici ce que Steve Wahlberg présente dans son livre à ce sujet-là, où il cite un passage du livre de Harry Potter, où il est dit « J'aimerais que l'on cesse de parler derrière mon dos », dit Myrtle, avec des sanglots dans la voix. « J'ai des sentiments, vous comprenez, même si je suis morte ». Voilà le genre de message que l'on transmet et qui est acheté par millions d'exemplaires de par le monde et qui va faire des merveilleux cadeaux de Noël pour les enfants parce que c'est une littérature qui se vend. Et puis aujourd'hui, Harry Potter, c'est cool, il faut que tout le monde ait au moins lu ça une fois. Vous avez sans doute entendu parler de ces expériences NDE, Near Death Experiences, ou bien en français, expériences de mort imminente, où des gens se trouvent dans un état de mort clinique, mais dans certaines circonstances, reviennent à la vie et racontent qu'ils ont vu cette lumière, ce tunnel. Ils ont des récits qui se ressemblent, qui divergent aussi parfois, avec des sensations particulières, parfois même des sensations d'être hors de leur corps. Et de nombreux ouvrages ont été écrits là-dessus. Regardez par exemple ce qui est dit dans cette chronique de l'au-delà. Alors que le patient manifeste tous les signes d'une mort apparente, ou du moins d'une inconscience totale au moment de l'expérience, il est capable de rapporter une description très précise de ce qu'il a vécu et des faits qu'il a observés pendant ce laps de temps. Donc quelque chose d'extrêmement étrange. Et vous savez, l'être humain est captivé par le mystérieux. Plus c'est mystérieux, plus ça se vend. Alors, on va en rajouter du mystère, en veux-tu, en voilà, pour aiguiser la curiosité du public d'aujourd'hui. Je continue la citation. Pour l'écrasante majorité des médecins et des spécialistes, l'explication est à rechercher du côté du cerveau. Lorsqu'il est confronté à la perspective de sa propre fin, notre noble organe se mettrait à dysfonctionner, engendrant une batterie d'hallucinations. Ce qu'on présentait comme étant le voyage dans l'au-delà, au moment de la mort, en fait, les médecins se penchent là-dessus, les chercheurs se penchent là-dessus et se rendent compte qu'il y a là des points communs entre certains résultats de la drogue et les phénomènes que l'on appelle expérience de mort imminente. Par exemple, le docteur Olaf Blanc, neurologue, a conforté cette hypothèse en diffusant par hasard un faible courant électrique dans le cortex temporal d'une patiente atteinte d'épilepsie. Il a fait naître chez cette personne des sensations de sortie de corps. Elle se voyait comme flottant 2 mètres au-dessus d'elle-même. Alors finalement, ces manifestations sont en réalité explicables du point de vue médical, mais on continue à croire qu'il y a quand même quelque chose après, un couloir, une lumière, et ce genre de choses qui sont racontées. On a écrit beaucoup de choses sur l'après-mort, je pense à ce livre « La vie après la mort » de Moody qui a paru en 1977. Je pense aux travaux du docteur Elisabeth Kübler-Ross qui s'est intéressée au soutien de ceux qui étaient dans le deuil et qui s'est intéressé de plus en plus à ces manifestations pour finalement écrire énormément sur l'au-delà. Puis finalement au père François Brune qui a écrit le livre « Les morts nous parlent ». Il est intéressant de voir de la part de ce prêtre catholique ce qu'il dit de ces manifestations-là. L'après-vie existe et nous pouvons communiquer avec ceux que nous appelons les morts. La mort n'est qu'un passage. Notre vie continue, sans aucune interruption, jusqu'à la fin des temps. Nous emportons avec nous dans l'au-delà toute notre personnalité, nos souvenirs, notre caractère. Voilà la position d'un prêtre catholique. Et remarquez, c'est intéressant parce que nous verrons de la part d'un autre théologien catholique une position extrêmement différente un petit peu plus tard. J'ai un gros problème avec ça. Parce que je prends par exemple simplement un seul texte dans les Écritures. Par exemple, le texte du psaume 6. Le psaume 6, le verset 6. Et je vous lis simplement ce qui y est écrit. Car celui qui meurt n'a plus son souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Celui qui meurt n'a plus son souvenir. Et on lit exactement le contraire ici de la part d'un chrétien. Comment réconcilier ça? Ou bien alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, il est question des saints, ne cesse d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu'ils ont acquis sur la terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Alors, j'ai du mal à comprendre. Combien y a-t-il de médiateurs entre Dieu et les hommes? S'il n'y en a qu'un, comment se fait-il que les saints intercèdent pour nous? Et il suffit de prendre ce texte qui est indiqué là, le texte qui se trouve dans 1 Timothée 2, chapitre 5, un texte que vous connaissez bien et qui est extrêmement clair à ce sujet-là. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5 dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. » Qui peut être médiateur? Celui qui s'est donné en rançon. Les autres peuvent-ils l'être? Non. De simples passages des Écritures bien connus vont à l'encontre de ce que, d'un autre côté, le christianisme annonce d'une façon officielle. Comment réconcilier les deux? Dans son livre, Roland Meyer apporte ici quelques éléments que je trouve intéressants, que j'aimerais partager avec vous, en particulier sur ses expériences de mort imminente qu'il a étudiées pour son livre qui est là, Le retour à la vie. Ceux qui considèrent les NDE comme preuve de la vie après la mort ne parlent pas volontiers des NDE dites négatives ou cauchemardesques. Si la NDE est la preuve de la vie après la mort, comment se fait-il que certaines personnes vivant cette expérience voient des défunts qui ne sont pas encore morts? Autrement dit, dans ces expériences, certaines personnes voient des gens comme étant morts, alors qu'en fait, ils sont vivants. C'est encore une fois, malheureusement, la vulgarisation de la pensée populaire qui nous a fait croire que les NDE sont la preuve de la vie après la mort. Les statistiques montrent que les catholiques voient volontiers la Vierge Marie, mais pas les protestants. Bizarre, quand même. Un peu plus loin, dans le même ouvrage, les centaines de cas de NDE dont j'ai eu connaissance par des rapports écrits par des spécialistes ou par des personnes qui m'ont elles-mêmes rapporté ce qu'elles avaient vécu, m'ont invité à croire que le phénomène est bien réel, mais qu'il n'en est rien une preuve de la vie après la mort. Il se rapproche bien plus d'un dysfonctionnement cérébral momentané. Des expériences qui sont finalement des dysfonctionnements cérébraux. Dans cette citation, il met le doigt sur quelque chose qui me paraît extrêmement important à noter et assez grave. Le docteur Kubler-Ross prétend avoir fait des expériences extracorporelles sur commande grâce à des moyens médicaux. Elle prétend avoir eu connaissance du monde qui attend le défunt et de ce fait, elle s'octroie le droit d'affirmer l'invérifiable que ma vraie tâche est là. « J'ai besoin de votre aide », dit-elle, consiste à dire aux hommes que la mort n'existe pas. Réfléchissez maintenant et venez dans vos souvenirs. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous est rapporté cet événement de la chute. Vous vous souvenez, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient reçu des instructions de la part de Dieu, et le diable va se présenter à eux sous la forme du serpent dans l'arbre qui avait été interdit, et va leur proposer différentes choses. Il va leur dire, en particulier, « Vous ne mourrez point ». Or, on sait, Jésus le dit, que le diable est le père du mensonge. Et on ne s'étonne pas non plus qu'aujourd'hui, chrétiens ou non chrétiens, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'éviter cette mort. Soit on va dire il est ailleurs, ou bien on peut communiquer avec lui, donc il n'est pas mort, ou bien simplement la réincarnation, qui est une autre forme pour éviter d'être confronté à cette échéance de la mort. Mais ici, on a un auteur qui nous dit, voilà, ma tâche, c'est de dire aux hommes, la mort n'existe pas. Cela apparaît curieusement à mes oreilles comme un écho de ce que le diable a lui-même dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Alors maintenant, à quoi sert le christianisme à ce moment-là? Quand l'électrocardiogramme devient plat, à quoi me sert le christianisme? Quelle espérance le christianisme me donne-t-il? Est-ce que le christianisme me permet de savoir ce qui se passe après? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui attend ceux que j'aime et qui partent? Le christianisme est-il clair là-dessus? Bien, je dois vous avouer que je suis assez surpris, parce que, en lisant la Bible, s'il y a dans les Écritures un enseignement qui est clair, c'est bien celui de la Bible sur la mort. Et pourtant, d'un autre côté, on entend au sein même du christianisme aujourd'hui une foule de théories qui n'ont rien à voir avec ce que les Écritures enseignent. Alors je m'étonne. Il ne s'agit pas d'un enseignement difficile à comprendre ou qui soit caché derrière quelques rares textes des Écritures. Non, c'est un enseignement clair de la parole de Dieu. Comment se fait-il que le christianisme d'aujourd'hui n'en a pas encore saisi le sens pour apporter aux chrétiens d'aujourd'hui l'assurance et la paix dont ils ont besoin face à la souffrance et au deuil? Je me pose encore la question. J'aimerais justement, dans les minutes qui nous restent, regarder avec vous ce que la parole de Dieu donne à ce sujet-là. Je crois effectivement que Dieu nous informe et nous dit ce qu'il en est. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il nous est rapporté le miracle dans lequel Jésus va donner vie à Lazare, son ami qui est mort. Vous vous souvenez, il est appelé par ses sœurs, qui demandent à Jésus de venir parce que Lazare est malade. Jésus ne vient pas tout de suite. Et puis, il s'adresse ensuite à ses disciples pour expliquer. Il est dit ici dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 11, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Autrement dit, dans l'esprit de Jésus, la chose est claire. La mort est comparée à un sommeil. Mais quand on pense à sommeil, on pense à quoi? Écoutez, quand je me couche le soir, je me couche avec une assurance. C'est que le lendemain matin, je vais me réveiller. Je dors parce que je sais qu'il y a un réveil. Et lorsque Jésus parle de sommeil, en parlant de la mort, il est sous-entendu qu'il y a quelque part un réveil. Et nous en reparlerons un petit peu plus loin. Dans le livre de Job, Job qui était frappé par la souffrance, qui voyait venir à lui la mort, il est dit ceci, « Mais l'homme meurt et il perd sa force. Il expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. » Ce n'est pas un enseignement limité à Jésus dans le Nouveau Testament, c'est un enseignement clair aussi déjà dans l'Ancien Testament, où l'on comprend dans le livre de Job, qui je vous le rappelle a été écrit 1500 ans avant Jésus, que les morts dorment et qu'ils ne se relèveront pas tant que les cieux subsisteront. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a là encore des passages assez clairs sur ce sujet-là. Ecclésiaste chapitre 12, verset 8 dit « Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Il y a là plusieurs expressions poétiques qui sont employées pour parler de la mort. Le cordon qui se détache, le vase d'or qui se brise. Mais nous retrouvons ici une expression que l'on a dans la Genèse. La poussière retourne à la terre. Et vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, il nous était dit que Dieu avait créé l'homme de la poussière de la terre. Il est dit ensuite que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors l'esprit retourne à Dieu. Ah, mais des gens me disent, ah mais oui, mais c'est ce que je voulais dire quand l'âme retourne à Dieu. Attendez, l'âme c'est une chose, l'esprit c'est une autre chose. L'esprit retourne à Dieu parce que Dieu en est le propriétaire. Dieu est propriétaire de ce souffle de vie que nous avons. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire. À la mort, ce souffle de vie qui appartient à Dieu, qu'il nous prête, si je peux m'exprimer ainsi, lui revient et il le garde. Je découvre par conséquent qu'au moment de la mort, Dieu a fait les choses de telle sorte que celui qui meurt est protégé, il est entre ses mains dans un sens. Le mal, le diable ne peut plus rien contre lui. Et c'est une grâce extraordinaire de savoir que, à partir du moment où l'on décède, le mal, le diable ne peut plus rien contre nous, parce que notre esprit est dans les mains du propriétaire. Mais bien des gens disent, ah oui, mais l'esprit retourne à Dieu, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'âme. Mais alors, le texte biblique nous précise de quelle manière il retourne à Dieu. Il ne nous laisse pas simplement le loisir de l'inventer. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les implications de ce texte sont extrêmement grandes. Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont décédés n'ont plus jamais aucune part à ce qu'il y a dans la vie des vivants. Cela veut dire que finalement, toutes les apparitions dont on entend parler, tous ceux qui reviennent et qui voient leurs défunts revenir ou qui parlent avec eux, tout ça sont des manifestations réelles, mais qui ne correspondent pas à l'enseignement biblique. Ce ne sont pas les morts, c'est autre chose. On a d'autres textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent de cela. Et il y a ce fameux texte qui est extrêmement intéressant en rapport avec la mort de Jésus. Dans Luc 21, verset 42, il est dit, et Jésus lui dit, il est ici question du larron sur la croix, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Maintenant, la langue française est une langue d'une grande précision. Je vais vous lire la phrase un tout petit peu autrement. C'est-à-dire que je vais enlever la virgule de là où elle est et la mettre ailleurs. Et vous allez vous rendre compte à quel point une virgule déplacée dans une phrase change le sens complet de la phrase. Il est dit ici, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Si maintenant je vous lis, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », le sens est complètement différent. Or, j'ai choisi de mettre la virgule après aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le reste des Écritures est clair sur le fait que Jésus ne peut pas promettre au larron d'être au paradis aujourd'hui avec lui, alors que Jésus lui-même n'y sera pas. Regardez ce qu'il dit lui-même. Évangile de Jean. Jésus parle à Marie et lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Et Jésus dit ça à Marie le dimanche de la résurrection. Si Jésus n'est pas monté vers son Père jusqu'à la résurrection, comment peut-il proposer au larron d'y être avant lui? Raison pour laquelle je choisis de mettre la virgule après le aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le texte grec n'a pas de virgule. Par conséquent, c'est nous qui devons la mettre au bon endroit en fonction non pas de ce que nous pensons être bien, mais en fonction de l'enseignement global des Écritures sur ce sujet-là. Jésus n'a donc pas promis au larron d'être avec lui au paradis aujourd'hui. Il lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis ». Et c'est un écho des expressions que Jésus emploie, où il dit par exemple plusieurs fois « Amen, amen, l'ego humine, je vous le dis en vérité ». Une manière que Jésus a de s'exprimer, de dire « Je te le dis et tu peux croire que c'est vrai ». Ici, une expression semblable où Jésus lui dit « Tu peux être sûr d'une chose, tu seras avec moi dans le paradis ». Mais pas aujourd'hui, parce que lui n'y sera pas non plus. Ainsi, il est utile de prendre les textes des Écritures pour pouvoir comprendre ce que les autres textes sont en train de nous dire. On parlait du sommeil tout à l'heure. Le sommeil implique un réveil. Si Jésus présente la mort comme un sommeil, c'est parce qu'il va y avoir un réveil, que nous appelons la résurrection. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort » n'a point de pouvoir sur eux. Nous apprenons donc que ceux qui ont part à la première résurrection sont ceux qui vont effectivement, comme Jésus disait, hériter de la vie éternelle. Dans l'Épître aux Hébreux se trouve une liste importante de tous ceux qui sont considérés comme étant des héros de la foi, des hommes qui se sont manifestés comme étant des hommes de foi et dont la foi leur a permis de traverser des épreuves, des hommes qui sont considérés, et des femmes d'ailleurs, qui sont considérés comme étant des gens sauvés par leur foi. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, reprend toute la galerie de ces grands personnages bibliques. À la fin du chapitre, il est dit ceci. « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas, sans nous, à la perfection. » Autrement dit, on ne va pas au paradis à la queue leu-leu. Dieu a un plan, et dans son plan, il prend, dans la vie éternelle et dans le paradis, tous ses enfants en même temps. Le texte dit, tous ces gens qui sont morts autrefois, ils n'ont pas obtenu ce qui était promis. Et la promesse qui nous a été faite, nous dit l'apôtre Jean, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ils ne l'ont pas. Que font-ils alors? Où sont-ils? Ils dorment. Jusque quand? Jusqu'au moment de la résurrection. De sorte que tous ceux qui sont sauvés en même temps. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu, malgré les circonstances dramatiques dans lesquelles nous sommes en tant qu'êtres humains à cause du péché, ait conçu les choses avec autant de sagesse et autant d'amour. Je prends un exemple. Abraham, que nous connaissons tous par les Écritures. Abraham qui a vécu 1800 ans, environ 2000 ans, disons, avant Jésus. Nous reconnaissons Abraham comme étant le père des croyants, un homme d'une foi particulière, et nous ne doutons pas un seul instant qu'il soit sauvé. Mais si Abraham est quelque part en attendant, s'il ne dort pas, comme beaucoup le croient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait depuis 4000 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il tourne en rond en attendant quoi? Le paradis? Mais imaginez la torture de cet homme que l'on voudrait au paradis et qui doit attendre pendant 4000 ans que toute cette histoire dramatique de l'humanité dans le péché soit arrêtée pour qu'il puisse jouir enfin de l'éternité avec les autres? Non, Dieu a prévu que quel que soit le moment où l'on meurt, dans l'histoire de l'humanité, nous en soyons tous au même point. C'est-à-dire qu'au moment où nous fermons les yeux dans la mort, le temps n'est plus là. L'instant où nous fermons les yeux dans la mort, c'est le même instant où il s'ouvre pour voir Jésus revenir. Que l'on soit dans la mort pendant 4000 ans, que l'on soit dans la mort pendant 6 mois, il n'y a aucune différence. Mais c'est une grâce extraordinaire que le Seigneur nous donne de ne plus avoir de temps dans la mort. Pour celui qui est mort, il n'y a plus de temps. L'instant où il s'endort, c'est le même instant où il se réveille. Extraordinaire de sagesse et d'amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus disait « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, qui est le récit auquel nous faisions allusion tout à l'heure par rapport à la résurrection de Lazare, Jésus parle à Marthe. Et Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. » Et il y a là une situation extraordinaire. Marthe est très au clair sur la situation. Elle sait que son frère Lazare va ressusciter à la fin. Mais elle est en train de dire à Jésus « Je le sais, mais ça n'empêche qu'il me manque maintenant. » Et dans la suite du texte, Jésus va pousser Marthe un peu plus loin. Il lui dit « Mais je suis la résurrection et la vie. » Et Jésus essaie de faire comprendre à Marthe, dans ce cas particulier, « Tu crois que ton frère va ressusciter au dernier jour. C'est bien, c'est juste. Mais Marthe, dis-moi, au dernier jour, qui va ressusciter ton frère ?»« Celui qui est la résurrection et la vie. Très bien, il est en face de toi maintenant. Ne peut-il pas le faire maintenant ?» C'était pousser Marthe un peu plus loin. Elle n'avait pas les ressources personnelles pour suivre Jésus jusque-là. Mais peu importe, Jésus dit « Roulez la pierre » et il fera sortir Lazare. Il ressuscitera au dernier jour, pas avant. Ce qui veut dire que personne ne vient au paradis les uns après les autres, au fur et à mesure qu'il meurt, ou de la bonté de Saint-Pierre qui leur ouvre les portes. Au dernier jour. Alors, je crois qu'il est important, pour essayer de comprendre l'enseignement biblique, de comprendre le vocabulaire que la Bible emploie. Il y a trois mots que nous avons besoin de comprendre, en particulier dans le sujet de la mort. Le premier est fort simple, nous n'avons pas besoin de nous y étendre, c'est le mot « corps ». Le corps, nous savons ce qui lui arrive dans la mort. Prenez une pomme, mettez-la dans la terre, dans votre jardin, et quelque temps après, il n'y a plus de pomme. C'est ce qui arrive avec notre corps. Il n'y a plus de corps. Il retourne à la poussière. L'autre mot, c'est le mot « esprit », dont nous allons parler aussi un peu. Mais il y a surtout le mot « âme » qui prête à confusion. Et j'aimerais reprendre avec vous quelques textes des Écritures où ce mot est employé et où parfois il n'est pas employé dans nos traductions françaises, de sorte que nous ne sommes pas toujours bien sûrs du sens qu'il a dans les Écritures. Regardez ici. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, dans le récit de la création, par exemple, il est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres. Le mot « âme » est employé dans ce texte. Où est-il? C'est traduit en français par « animaux vivants ». Autrement dit, que la terre produise des âmes, selon leur espèce. Et il s'agit des animaux. Mais qui, aujourd'hui, va considérer que les animaux ont une âme? Personne. Dans le livre de l'Exode, chapitre 4, verset 19, l'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Le mot « âme » est employé ici aussi. Comment est-il traduit? Par « vie ». Et c'est effectivement le sens du texte, où Dieu dit, « Tous ceux qui voulaient te faire mourir sont morts eux-mêmes, tu ne risques rien. » Tous ceux qui en voulaient à ta vie. Mais c'est le mot « âme » qui est employé. Dans Matthieu, c'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. On est dans le Nouveau Testament, le mot « âme » est employé ici aussi pour « vie ». Ne vous inquiétez pas pour votre âme, dit le texte. Pour votre vie, c'est effectivement le sens du texte. Dans Matthieu, toujours, au chapitre 10, « Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » C'est en réalité le mot « âme » qui est employé. Le texte dit « Celui qui conservera son âme ». Il est évident que c'est le sens de vie. On comprend le texte avec la traduction telle qu'elle est là. Deutéronome. « Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes, et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude. » Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 âmes. » Et nous avons parfois encore aujourd'hui ce langage. On va dire, par exemple, « Tel village comporte 537 âmes. » On parle des habitants. Personne n'imagine qu'il y a 537 fantômes dans cette ville qui se promènent. Non, 537 personnes. C'est la population qu'on en compte. L'apôtre Paul s'exprime de la même manière dans Actes 27. « Nous étions dans le navire, 276 personnes en tout. » Il ne dit pas ça, il dit 276 âmes en tout. C'est évidemment pour indiquer le nombre de personnes, tout simplement. Genèse, chapitre 14. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, et moi je prendrai les richesses. » Le texte dit en fait, « Donne-moi les âmes. » Mais personne ne comprend ce texte, « Donne-moi les fantômes de ceux qui sont morts. » Non, « Donne-moi les personnes. » Le contexte est clair d'ailleurs quand on le reprend de plus près. « Est-il permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» De sauver une âme ou de la tuer. Il s'agit d'une personne, évidemment. Dans 1 Roi, chapitre 19, Élie parle à Dieu et dit « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Que veut-il dire? Le mot « âme » est effectivement employé ici, et il est conservé dans la traduction. Que veut-il dire? Prends ma vie. Élie est en train de dire « Seigneur, je veux mourir, c'est assez, prends ma vie. » D'autres passages ici, Matthieu chapitre 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Un texte qui nous montre par exemple qu'il n'y a pas d'immortalité en rapport avec le mot « âme », jamais dans les Écritures. Ézéchiel 18, verset 4, « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » 1 Timothée 6 nous indique cette notion. Il est question du roi des rois, du seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Vous pouvez lire votre Bible de la première jusqu'à la dernière page. Vous ne trouverez jamais le mot « âme » associé à la notion d'éternité. Pas une seule fois. Par contre, qui est éternel? Dieu seul. Et je crois que c'est important de le remarquer. Le livre de la Genèse, maintenant, va nous donner une clé fort simple, qui élimine énormément de questions sur ce sujet-là. Il suffit de lire les premières pages des Écritures pour avoir la clé. Dans Genèse chapitre 2 au verset 7, Dieu donne la formule de la création humaine. Il dit « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Dans certaines versions, vous avez un être vivant. Nous avons là la formule qu'il est extrêmement important de comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il a formé avec la poussière de la terre? Le corps, n'est-ce pas? Il souffla dans ses narines le souffle de vie. C'est ce que l'on va appeler, dans le langage du Nouveau Testament, l'esprit. Et l'homme devint une âme vivante. C'est intéressant, le mot qui est utilisé ici pour le souffle de vie, c'est un mot hébreu qui est une onomatopée. L'onomatopée, c'est un mot qui reproduit un son, cocorico, achum, etc. C'est le mot roar. Quand il fait froid et qu'on veut voir notre souffle, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit la colonne de nuée. C'est ce mot-là qui est fait. C'est à partir de cette image que ce mot-là est fait. Roar, souffle. Que l'on a dans le Nouveau Testament sous le terme pneuma, que nous comprenons parce que sur notre voiture, nous avons quatre pneumatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'air dedans. Pneuma, l'esprit, l'air, qui est la meilleure manière que les anciens avaient d'exprimer cette dimension non touchable de la vie que nous avons en nous. Le corps, l'esprit, et vous remarquez, voilà l'équation que nous avons dans Genèse 2. Il a formé le corps de la poussière de la terre. Il lui a insufflé le souffle de vie, et les deux ensemble forment une âme. Le mot « âme » s'applique ici au résultat des deux autres. Lorsque le souffle de vie se trouve dans le corps, il y a une âme. Et nous avons par conséquent un enseignement très clair des Écritures. L'être humain n'a pas une âme. Il est une âme. Nous avons un corps, nous avons le souffle de vie, l'esprit, mais nous sommes une âme. Nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme. Vous voyez la différence? Elle est essentielle. Parce que le jour où en réalité le corps et le souffle se séparent de nouveau, il n'y a plus d'âme. L'âme n'existe plus. Ça change tout à la vision que l'on peut avoir de la mort. L'être humain n'a pas une âme. Il est une âme. Parce qu'une âme, c'est un être vivant, c'est quelqu'un qui vit, c'est une personne. Et les textes de la parole de Dieu sont nombreux pour nous faire comprendre cette dimension-là de ce mot. J'aimerais reprendre maintenant, par exemple, ce texte de Claude Trémontant, qui est un théologien catholique, et qui est à comparer avec ce que l'autre théologien catholique disait tout à l'heure au début de notre conférence. Claude Trémontant écrit dans le magazine Esprit en 1957, « L'âme humaine n'est pas une partie de la substance divine. Elle n'est pas de soi éternelle. Si l'homme a une espérance, c'est en Dieu et non en soi-même. C'est ici que gît la différence essentielle entre l'immortalité de l'âme des philosophes et la doctrine biblique. » Intéressant de voir un théologien catholique faire cette constatation et énoncer les choses d'une façon si claire. En totale opposition d'ailleurs avec ce que l'autre théologien catholique disait tout à l'heure. L'âme humaine n'est pas une partie de la substance divine, elle n'est pas de soi éternelle. Il y a dans les Écritures une forte mise en garde contre toutes ces manifestations-là. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, Dieu donnait cette instruction à son peuple déjà. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce texte nous rappelle une chose, c'est que ces manifestations de spiritisme, que l'on pourrait exprimer ainsi pour prendre un raccourci, sont une réalité. On ne peut pas dire que c'est une hallucination et que ça n'existe pas. C'est une réalité. Mais Dieu interdit à son peuple d'y toucher parce qu'il sait que derrière cette réalité se trouve quelqu'un d'autre, l'ennemi numéro un. Et ce n'est pas surprenant, parce qu'effectivement l'apôtre Paul le mentionne. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, en réalité, il dit « Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Voilà à quoi s'occupe l'ennemi numéro un, le diable et ses démons. À brouiller les cartes de tous ceux qui sont dans la souffrance et dans le deuil, pour les écarter du seul qui peut leur donner une espérance, qui est le Christ lui-même. Le seul qui soit vivant, le seul qui soit passé par la mort et qui ait lui-même dit « Je donne ma vie et je la reprends ». Le seul qui a la vie en lui-même et qui dit « Je suis la résurrection ». La fin sera glorieuse. Et l'on a dans les Écritures des indications précises à ce sujet. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, il est dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » L'apôtre Paul, à cette époque-là, comme un certain nombre de croyants, espéraient voir Jésus revenir de leur vivant. Et ça transparaît dans ce texte. Mais l'enseignement est clair. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés avec eux. Et vous remarquez ici, dans ce passage, on pourrait en lire d'autres, que Jésus, lorsqu'il revient, ne revient pas installer sur terre un règne de bonheur. Lorsque Jésus revient, c'est pour prendre avec lui ceux qui sont sauvés. C'est une évacuation de ce monde, parce que ce monde ne sera plus intéressant pour personne à ce moment-là, tant le péché, la misère et le mal l'auront détruit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, se trouve ce passage. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Nous ne pouvons pas apporter notre soutien et la consolation des Écritures si nous ne savons pas nous-mêmes ce que les Écritures enseignent sur le sujet de la mort. Et quand je regarde l'enseignement des Écritures, je suis émerveillé de voir l'amour et la sagesse de Dieu dans cette situation terriblement douloureuse de la mort qui est présentée dans les Écritures comme étant le salaire du péché. Finalement, lorsque quelqu'un ferme les yeux dans la mort, il dort jusqu'au retour de Jésus. Il dort d'un sommeil qui le rend inconscient de tout ce qui se passe, et surtout inconscient du temps qui passe, au point où, au moment où l'on ferme les yeux, l'instant suivant, c'est le moment où Jésus revient. Grâce extraordinaire. Mise à l'abri pendant tout le temps de notre sommeil, dans la main de Dieu, qui est le seul propriétaire du souffle de vie qu'il nous a donné. Protégé pendant tout ce temps-là. Celui qui s'endort dans l'espérance, celui qui s'endort dans la foi en Jésus-Christ, s'endort et sait que l'instant suivant, pour lui, ce sera le retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle de christianisme, je me posais tout à l'heure la question, qu'est-ce que le christianisme d'aujourd'hui a à me donner comme consolation? Je n'entends pas de consolation dans ce que le christianisme d'aujourd'hui me donne. Je trouve par contre une consolation extraordinaire dans ce que les Écritures me donnent par rapport au plan que Dieu a mis sur pied pour mettre à l'abri tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alors évidemment, quand on découvre le plan de Dieu dans cette affaire de la mort, on attend avec impatience que le Seigneur Jésus revienne. On attend avec impatience que ce problème de la mort, de la souffrance, soit complètement éradiqué. Et je dis souvent dans les enterrements, lorsque il m'est donné l'occasion d'en faire, nous parlons de revoir ceux qui nous quittent dans la mort. La solution reste entre nos mains. Parce que si eux sont morts dans la foi, c'est à nous, être vivants aujourd'hui, de faire notre choix pour être avec eux aussi dans la première résurrection. Et pour ceux qui restent, se trouve là la responsabilité de faire le choix de vie qu'il émet entre les mains du Christ pour qu'ils puissent eux aussi, que nous puissions avoir aussi, cette assurance de faire part de la première résurrection lorsque Jésus reviendra. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Je crois effectivement que le Seigneur use de patience envers nous, pour que nous ayons encore le temps de rechercher dans les Écritures la bonne voie, celle qui s'y trouve et par laquelle le Saint-Esprit nous dit « Voici le chemin, marchez-y ». Ainsi, j'aimerais vous laisser en terminant cette béatitude qui est dans le livre de l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Et je crois que cette promesse et cette béatitude peut être à la disposition de tous ceux qui veulent recevoir aujourd'hui Jésus comme leur sauveur personnel. Tous ceux-là appartiennent au Christ et tous ceux qui appartiennent au Christ sont en sécurité. Que ce soit dans la vie, ou que ce soit dans la mort. Ainsi, il nous appartient à nous d'aller chercher dans les Écritures le chemin. Il est clair, il est simple. Il se résume en une personne, la personne de Jésus-Christ. Et c'est le souhait que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions vivre notre vie dans cette paix, sachant qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de crainte.